Alors, premièrement, simple question, est-ce que vous pouvez vous présenter?
I'm an Estonian. My name is Piret
Je suis
Tomet.
estonienne, je m'appelle
I'm 49
Piret, j'ai
years old
49
and I work
ans et
as
je travaille en tant que professeure à
Estonian
l'université de
teacher
Tartu. Ça fait à peu près
for
30 ans à
already 13 years at
l'université de
Tartu
Tartu,
University,
mais j'ai travaillé dans
I
plusieurs
worked in
endroits
many
comme en
places in
Hongrie, en
Hungary.
Russie,
Also, I
en
spent a year in
Sibérie,
Russia,
dans un
in
tout petit
Siberia,
village où j'ai
in a
enseigné aux enfants.
small.
Donc, on est ici pour parler du cours de Estonia and Estonians. En français, ça donne Estonie et les Estoniens. C'est un cours qui est extrêmement typique de l'Estonie, puisqu'il reflète vraiment l'identité et le caractère estonien. Donc, est-ce que vous pouvez déjà commencer par présenter ce cours? Qu'est-ce qu'on y fait? À propos de quoi est ce cours? Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu?
We Estonian teachers,
On
we
a
have a
une
nice
très bonne
team
équipe
of
de 8
eight
professeurs
Estonian
d'estonien
teachers.
et on a
We
décidé,
decided,
il y a
I guess
4 ans,
it was
qu'on avait
three,
besoin
four
de
years
plus de
ago
temps pour parler
that
des
we need more
Estoniens et de
time to tell
l'Estonie.
about
Parce qu'en fait, jusqu'à présent,
Estonians,
on enseignait
about
seulement la
culture,
langue. Et
because
à chaque
until
fois, il y avait
that
tellement
time,
de questions par
we
rapport à la culture,
only
par rapport aux
taught
habitudes,
language,
par
Estonian
rapport aux
language.
coutumes,
And
qu'on
sometimes
a
there were
pensé
so many
qu'on avait besoin
questions about
d'un extra
culture
cours, enfin d'un
and
cours
habits and
extra,
traditions
pour expliquer
that
plus de choses, tout
we thought
simplement.
we
C'est
need
pour ça que ce
extra
cours
course to
existe
explain
désormais.
things.
Ok, et donc, comment vous faites pour parler de la culture estonienne? Quel est le processus, par exemple, pour trouver de quoi on va parler pendant la séance prochaine? Comment vous vous organisez?
My colleagues decided
Alors, ça dépend des cours parce
create a course
que
called
il existe
Estonian
donc
Film
le
and
cours que
Museum
j'anime
course.
de Estonia
They
and
watch a
Estonians.
film,
Et
then
après,
they go to
il existe
museum,
le
then
cours
another film comes,
Films
another
and
museum,
Museum
and so
About
on. So
Estonia.
every week they
Donc,
have a
chaque
museum
semaine,
tour
on
or
alterne
a
entre un
film, a
film
movie night, a
et une
film
sortie au
watching,
musée. Un
unless
film
it's
et
not
une
night,
sortie au
it's
musée.
a normal
Donc là,
study
la classe
time.
s'organise comme ça,
So I
entre le
decided to
cinéma et les
do
sorties
a
au
bit
musée. Toujours en
different
rapport avec
course
l'Estonie.
and
Donc
to
moi, dans le
help
cours de
lectures.
Estonian and Estonians, j'ai
And I
décidé
took the
de
very
faire un
basic
cours
topics
différent.
like Estonian
J'ai voulu
nature,
parler de
Estonian
sujets très simples. Par exemple, la nature
professional culture,
estonienne,
folk culture,
la culture
and so on.
professionnelle
Like
estonienne,
Estonian
la
nature,
musique
Estonian,
estonienne, la cuisine estonienne,
Estonian.
etc. Vous avez dit que le but de ce cours, c'était pour permettre aux étudiants étrangers d'en savoir plus par rapport à l'Estonie. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose?
Indeed, but actually my
En
main
fait,
aim,
mon but
I
premier
sometimes forget
et
about this,
principal, et je
my
l'oublie
main
souvent
aim is
généralement,
to give
c'est
a
de
chance to
permettre aux
students to
étudiants
compare
étrangers de
their own
comparer leur
culture
propre
and Estonian
culture et
culture,
la culture estonienne.
and to find
Et de
differences and
trouver des
similarities
similitudes ou des
between
différences
so-called big cultures
entre
or
les
cultures of
grosses
big
cultures
nationalities
ou les
and
cultures
small
des grandes
cultures
nations et les
that
petites
are less
cultures comme
known,
celle de
way
l'Estonie,
less
qui sont
known or not
justement
known at all,
beaucoup moins connues
to
ou parfois
find
même
similarities
totalement
and
méconnues.
differences.
Est-ce que vous pensez que c'est important pour l'Estonie d'avoir des cours comme le cours de Estonia and Estonians dans ses universités? Si oui, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi?
I think it's nice to have.
Je pense
It's
que
not
oui,
necessarily a
effectivement, oui, c'est
must,
bien d'avoir des cours comme ça.
but
C'est pas
I think that
nécessairement
nowadays
un must.
we
On doit
always
pas
tell that
forcément
to
en
teach
avoir.
language
En plus, de
without
nos jours, on
culture
dit
is
forcément
impossible,
toujours que
that every
enseigner des
language and
langues sans la
society
culture, c'est
and culture
impossible.
are so
Donc,
tightly connected.
que
But when we talk
chaque
about language,
langue,
it's not just
société et
pure grammar
culture sont
constructions and
extrêmement
vocabulary,
connectées.
but always about
Quand on parle de langue, en fait, c'est pas seulement la
context,
grammaire
and
et
culture
le
is the very
vocabulaire.
context.
Il y a énormément
So
aussi de
to
choses
give
par
the
rapport au
both
contexte, et
sides,
la
the
culture,
cultural
c'est tout ce qui
side
fait le
and
contexte.
the linguistical
C'est
side,
important de
to try
donner
to
les deux
combine
côtés,
these.
le
I think
côté
that's something
culturel et le
we
côté
always do,
linguistique, et
because
ensuite de pouvoir
if
les
we
combiner
teach
ensemble.
Estonian
D'ailleurs,
language, that is
expliquer la
such a
culture comme
small
ça,
language,
j'essayais aussi de le faire quand j'allais
and
à
very often
l'étranger
people don't know
et que
nothing
j'enseignais
about
à
this
l'étranger
language, we
parce
also
que il y
explain
a toujours
cultural
certaines issues
issues,
à expliquer par
culture
rapport à la
topics and
langue
so on.
qui d'ailleurs peuvent
And
expliquer la construction de la langue. Donc je pense que c'est toujours important de le faire.
Et en fait, à chaque fois, toute la question, c'était combien de temps j'aurai pour pouvoir parler de cette culture. Donc je pense que c'est vraiment bien d'avoir fait un cours seulement sur la culture pour pouvoir mettre de côté un peu le langage et pouvoir se concentrer là-dessus. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus quant à pourquoi vous avez décidé d'enseigner ce cours? Et aussi, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que vous ressentez quand vous enseignez ce cours, sachant que vous avez vécu la période soviétique et que vous vivez également maintenant à cette période? Comment est-ce que vous vous sentez quand vous enseignez?
Actually, I think a lot.
Je pense énormément à l'histoire de l'Estonie souvent. Je pense que c'est parce que déjà je suis très intéressée par l'histoire en général. Pas vraiment dans un but scientifique, mais beaucoup plus dans un but personnel. J'aime beaucoup, beaucoup les petites histoires, comme les histoires de famille. Et j'aime bien essayer de m'imaginer et de penser à comment était la vie avant. Je suis née en 1970. Donc j'ai passé mon enfant dans l'Estonie soviétique, mais bien sûr en tant qu'enfant, je ne me suis jamais dit là je suis en train de vivre l'époque soviétique. En fait, bien sûr, j'étais juste une enfant, donc je me contentais de vivre mon enfant. Et maintenant que je suis au milieu de ma vie, que je vis ma vie d'adulte, je me dis que c'était une expérience magnifique parce que ça m'a permis de me rendre compte à quel point le monde avait changé et aussi à quel point notre Estonie avait changé, à quel point la façon de penser avait changé. J'aime bien aussi me dire que je suis vraiment, vraiment chanceuse de vivre ça. Parce que personnellement, je pense que la vie a changé pour le mieux. Elle s'est tellement améliorée et j'aime vraiment, vraiment vivre de nos jours en fait. Et je sais pas, je me sens comme bénie des dieux parce que je me dis que ça arrive pas à n'importe qui de vivre dans une vie aussi tranquille. Après, cette expérience du passé, ça laisse forcément des traces quand j'y repense. Je me dis que le monde a changé tellement vite, en tellement peu de temps, forcément ça secoue un peu. Merci pour votre réponse. Alors moi, je voulais ensuite mettre l'accent sur le fait que ce cours m'a beaucoup aidé à comprendre le caractère estonien. Parce que quand on arrive ici, on est extrêmement surpris parce que la culture estonienne diffère énormément de la culture française. Je pense par exemple qu'en France, on a énormément de formules de politesse. Et que parfois on a tendance à les rendre un peu obligatoires et à en faire un peu trop. Mais il n'empêche que quand un Français arrive dans un autre pays, il attend plus ou moins que ces gens dans l'autre pays fassent la même chose. Parce qu'ils sont habitués à ces formules de politesse. Et en France, quand on respecte pas ces normes sociales, justement ça peut être signe d'irrespect. Donc en fait, quand je suis arrivée ici, j'ai été très surprise. Et en me penchant un peu plus sur l'histoire de l'Estonie, en me penchant sur la culture estonienne, notamment grâce au cours de Estonia and Estonians, j'ai pu comprendre, ça m'a aussi aidé à accepter, le fait que les Estoniens sont simplement comme ça. Et ça ne veut pas forcément dire marque d'irrespect, mais c'est leur façon de fonctionner. Je voulais savoir, vous, comment, en tant qu'Estonienne, vous décririez le caractère national estonien? Comment est-ce que vous le percevez?
First of all, thank you for your comment.
Moi, je trouve ça intéressant en tant qu'Estonienne que justement ma culture, cette culture estonienne, puisse sembler grossière et que notre façon de communiquer puisse sembler impolie. Je sais pas, je me dis que si, par exemple, les Français trouvent ça déplacé, c'est peut-être parce que notre société et la vôtre ne fonctionnent pas pareil. J'imagine la société française comme une société extrêmement hiérarchisé avec la classe haute, la classe du milieu et la classe du bas. Et à chaque classe, des attitudes, des comportements qui leur sont propres, des façons de communiquer qui se sont répandues. Mais ici en Estonie, c'est complètement différent parce que tous les Estoniens ont toujours fait partie d'une seule et même classe, la classe paysanne. Donc, on peut paraître assez froid, effectivement. Dans notre culture paysanne, il n'y a pas de bisous, il n'y a pas de sourire. On évite les regards dans les yeux et on a besoin de garder notre distance. On a besoin d'être froid. Alors je ne sais pas, peut-être que c'est nordique, peut-être que ça vient des pays baltes, peut-être que ça vient tout simplement des Estoniens. Mais c'est comme ça, c'est comme nous sommes. Après, ce caractère estonien, il est aussi façonné par notre situation géographique. On vit vraiment très haut dans le nord et on a toujours vécu isolé et plus ou moins séparé du reste de la population. La vie a été dure et puis il y a aussi énormément l'histoire qui joue dans ce caractère estonien. Quel a été le rôle des paysans estoniens? Quelle a été leur vie de tous les jours? Et puis il y a quelque chose dont on ne parle pas trop de nos jours, mais la culture estonienne, elle a vraiment un contexte à la base luthéran, luthéranisme qui vient du protestantisme. Et donc, la religion a eu également un effet sur ce caractère estonien. La religion nous a diffusé énormément de pensées. Par exemple, il est préférable de garder le silence plutôt que d'user de la parole. Travail dur et peut-être qu'un jour, l'amour suivra. Ne souris pas parce que seulement les fous sourient. Et des citations comme ça, il y en a plein, et ces citations ont fini par se transformer en nos valeurs, qui sont encore présentes aujourd'hui. Et ces valeurs, elles ont des sources luthéranes. Aujourd'hui, on est une partie du monde qui est la moins religieuse. L'Estonie, c'est un pays qui est très séculier. Et pourtant, vraiment profondément dans notre culture, on a ces racines luthéranes qui continuent de faire leurs effets aujourd'hui. Notre histoire explique aussi cette partie de nous qui avons besoin de la nature, qui avons besoin de nos forêts, de nos lacs et de grands espaces, parce que ces grands espaces nous donnent l'occasion d'être seuls. Et les Estoniens ont très souvent voulu être seuls. L'Estonie, elle n'a jamais vraiment été très peuplée. C'est un espace assez vide. Et ça affecte les gens ici. On est plus entouré par des arbres que par d'autres êtres humains. Pendant le dernier cours de Estonia and Estonians, on est allé visiter le musée national de l'Estonie et ce musée, vous l'avez décrit comme un trésor national. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi vous l'avez décrit comme ça et aussi comment est-ce que ce musée a été construit ?
So, in the very beginning of 20th century,
retour au début du 20e siècle, donc énormément de changements sont survenus en Estonie. Donc à cette période, on a vu énormément d'urbanisation, de modernisation, et les Estoniens qui habitaient dans les serfdoms, cela depuis 100 ans, ont commencé à tous changer de mode de vie. Ils sont tous venus dans ces nouvelles villes industrielles. Et ils n'étaient plus des paysans désormais. Ils se mettaient à aller dans les universités, ils étaient immatriculés. Il y avait des artistes professionnels et également des bureaucrates. Donc la vieille et archaïque façon de vivre d'avant commençait à disparaître progressivement. Et plusieurs intellectuels ont remarqué ce changement qui finalement était plutôt rapide. Et ils se sont dit, maintenant c'est le moment de collecter tout ce qui, selon eux, pourrait être représentatif de la tradition estonienne. Tout notre héritage, tous nos vêtements traditionnels, tous nos outils de travail, tout ça. Pour eux, c'était vraiment important de prendre autant de photos que possible, d'enregistrer autant de sons que possible. Et du coup, ils ont fait un appel immense dans les universités, dans les journaux, dans les médias. Ils ont écrit des articles qui expliquent que maintenant il était temps de faire le tour de tous les villages, aller frapper chez les gens pour leur demander de nous donner ce qui, selon eux, pour le moment n'a pas vraiment de valeur, mais qui aura de la valeur dans plusieurs années en termes de représentation de la culture estonienne. Le but, c'était de recueillir un héritage national. Et ça a eu vraiment beaucoup, beaucoup de succès. C'est pour ça qu'aujourd'hui, à l'Estonian National Museum, on peut trouver beaucoup de collections qui représentent notre vie d'avant. Des vêtements d'antan, des outils d'antan, des coutumes d'avant. Et tout ça, c'est extrêmement bien préservé là-bas. C'est une vie conservée de nos ancêtres. Et maintenant, au 21e siècle, on a la chance de pouvoir retourner là-bas, de pouvoir voir, toucher, écouter et constater la vie qu'il y avait avant en Estonie. Donc c'était vraiment une super idée d'avoir fait ça, à temps, au dernier moment, pour le bon temps, justement. C'est de cette façon qu'on a réussi à sauver notre histoire. Et donc c'est pour ça que j'appelle ça un trésor, parce que c'est une histoire extrêmement bien préservée qui est très importante pour notre histoire actuelle également. Donc, pendant cette visite au musée, on a vu énormément de traditions. Et à la fin, il y en a une qui a particulièrement retenu mon attention. On a vu deux grand-mères qui tentaient de préparer un cocktail qu'on appelle flagshot. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu en quoi consiste cette tradition et quel est ce fameux flagshot ?
Alors,
pendant les nombreuses occupations que l'Estonie a subies, et notamment pendant l'occupation soviétique pendant la guerre froide, tout ce qui était estonien était interdit. Donc, tout ce qui était estonien nous semblait encore plus plein de valeur. Par exemple, les couleurs de l'Estonie, on les affichait partout et en secret, parce qu'elles avaient énormément de valeur pour nous. Donc à la maison, on en profitait, on utilisait nos symboles nationaux, parce qu'à l'extérieur, ils étaient bannis, et on n'avait pas le droit de les montrer. C'est dans cette période-là que le flag shot a été créé. Donc ils ont créé un shot avec les couleurs bleues, noires et blanches. Donc c'est possible de faire ce shot avec un alcool qui a une couleur bleue dont je ne me souviens plus le nom, ensuite de rajouter un peu de café, puis ensuite de la crème, et ça vous fait ce fameux flagshot. Et donc dans cette vidéo, moi ce que j'aime beaucoup quand je vais au musée et que je la re-regarde pour la énième fois, c'est que ces grands-mères font ce shot pour deux amies à elles qui vivent à l'étranger et qui ont fui le pays pendant l'occupation soviétique. Et en fait, elles semblent présenter le flagshot à leurs deux amies qui vivent à l'étranger. Et donc, les grands-mères produisent ce national flag shot. Elles envoient la vidéo à leurs amis et elles envoient également leurs salutations. Ces grands-mères, elles ont peut-être 80 ou 90 ans. Je pense que les amis à qui elles s'adressent ont presque le même âge, donc elles ne peuvent plus se voir désormais, peut-être plus se déplacer, peut-être à cause de problèmes de santé. Et j'imagine que cette vidéo, c'est une façon quelque part de garder le lien. C'est ça qui est rigolo aussi. C'est qu'elles gardent le lien grâce à un shot d'alcool. Et elles envoient des salutations nationales grâce aux couleurs nationales en buvant le flag shot. C'est un petit détail et c'est une petite histoire, mais franchement, elle a sa signification. Et elle marque beaucoup, beaucoup d'années de dure vie sous l'Empire soviétique. Pendant notre visite au musée, on a vu ce fameux shot, flag shot, avec les couleurs du drapeau estonien, mais on a aussi eu la chance de voir le drapeau originel de l'Estonie qui a une histoire. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de cette histoire ?
It was actually a flag of a student society.
À la base, c'était le drapeau d'une société d'étudiants qui a existé jusqu'à la fin du 19e siècle, jusqu'en 1890. Et il a été consacré, ce drapeau, comme étant le drapeau de cette société étudiante. Et progressivement, ce drapeau est devenu un symbole national. Donc, l'Estonie indépendante, dans les années 1990, a été déclarée indépendante sous ces couleurs-là, le bleu, le noir et le blanc. Et avant, il y avait des drapeaux nationaux dans presque toutes les maisons. Mais pendant la période soviétique, les drapeaux ont été bannis. Et pendant des années, puisque le drapeau était banni, l'originel a été caché dans un endroit très secret. C'était dans les fondements d'une cheminée d'une maison. Quand le drapeau a eu 50 ans, la société des étudiants a décidé de donner le premier drapeau originel au muséum, au National Museum d'Estonie. Et il a depuis une place extrêmement proéminente dans le musée. Et quand l'Estonie a été occupée pendant la Seconde Guerre mondiale, en fait, là, les membres de la société étudiante ont décidé de revenir au musée, de remplacer le drapeau originel par un drapeau dupliqué, un faux drapeau, et d'enfermer le drapeau originel dans une boîte en métal. Ils sont ensuite allés enterrer cette boîte en métal quelque part dans l'Estonie du Sud, dans un jardin. Le drapeau est resté là pendant 2 ans, et ensuite, ils ont commencé à s'inquiéter par rapport aux conditions. Ils se sont dit qu'en fait, ça serait peut-être trop humide. Donc, c'est là qu'en fait, ils ont décidé de prendre le drapeau et de l'emmener dans une maison, dans les bases d'une vieille cheminée. Parce qu'en fait, on pense vraiment que s'il y a un problème, par exemple qu'il y a une guerre et qu'une maison est détruite parce qu'elle a été bombardée, au moins la cheminée va rester. Ou tout du moins les fondations de la cheminée. Il n'y avait que 2 ou 3 personnes qui connaissaient l'endroit où était enterré le drapeau. Et en fait, ils n'avaient pas vraiment d'espoir contre ce drapeau, ils se sont dit qu'à un moment donné, quelqu'un finirait par le trouver. Mais heureusement, en 1991, l'Estonie a été déclarée indépendante, enfin. Et heureusement, les personnes qui se souvenaient de son emplacement n'étaient pas décédées, n'avaient pas disparu. Donc on a organisé un jour où on allait chercher le drapeau, les médias ont été conviés, ainsi que la population, pour aller ouvrir cette boîte et récupérer le drapeau qui était vraiment resté en bon état. Et maintenant, le drapeau est revenu au National Museum et il est extrêmement bien préservé et c'est possible d'aller en profiter encore aujourd'hui et d'aller le voir. Moi, je me souviens avoir vu les nouvelles à la télévision et je me souviens de l'engouement qu'il y avait à l'époque parce qu'en fait, le National Museum avait été bombardé, donc on avait déjà perdu énormément de symboles nationaux. Alors beaucoup de personnes ne croyaient même pas que le drapeau originel ait pu survivre. Et donc le fait que en fait, une relique telle que ce drapeau ait pu être préservée pour nous, Estoniens, qui avons toujours voulu être importants et clamer nos couleurs haut et fort, c'était quelque chose de très symbolique. L'Estonie est pleine de traditions, ça c'est sûr et certain, maintenant on le sait. Est-ce que pour Halloween, puisqu'on approche là des périodes d'Halloween, est-ce que pour Halloween il y a des traditions particulières en Estonie ?
Yeah, it's a very nice question. Thank you. It's so actual at the moment.
Oui, justement, so now we are in the j'aime beaucoup cette question. Merci, c'est très actuel parce que, c'est bientôt Halloween, on est au milieu d'octobre. Et ça va me permettre de revenir sur ces traditions-là. Bien sûr qu'on en a. Les traditions comme Halloween, Noël, sont très importantes ici en Estonie. En fait, en Estonie, et comme dans tous les pays du Nord, on profite d'Halloween pour célébrer la période noire. La période noire, on l'appelle comme ça parce que pendant cette période, le jour tombe de plus en plus vite, les journées sont de plus en plus courtes, et pendant la période d'ensoleillement, les journées restent quand même très sombres à cause du temps pluvieux. Alors nous, on a décidé de célébrer ça, ces journées noires, en même temps que Halloween. On a deux périodes, deux traditions pendant Halloween, la St. Martin Beggars et la St. Catherine Beggars. Donc la première, elle a lieu le 10 novembre, et donc ce jour-là, les enfants, ils se déguisent comme des petits enfants sales et vilains, avec des vêtements noirs, et puis ils essayent de se mettre de la craie noire sur le visage pour représenter la saleté. Et donc en fait, ils vont de maison en maison, ils interprètent des chansons pour les habitants, ils leur souhaitent ensuite un bon courage et une bonne vie, et souvent une discussion s'engage entre les enfants et puis les habitants de cette maison, et à la fin seulement de cette procession, alors les habitants donnent des bonbons et des pommes à ces enfants. Puis ensuite les enfants réitèrent l'expérience de maison en maison jusqu'à avoir les poches pleines de bonbons. Et deux semaines après, le processus recommence, mais cette fois-ci, les enfants, et particulièrement les petites filles, se déguisent en princesses, se déguisent en petites filles prospères avec du beau maquillage, des belles robes, des beaux bijoux, des beaux yeux bleus. Et puis, elles reviennent à ces maisons et elles recommencent le processus. Elles souhaitent prospérité, santé et puis bonheur aux habitants de ces maisons. Elles continuent de leur poser des questions pour engager la conversation et elles récupèrent des bonbons. Donc voilà, c'est notre façon ici de célébrer Halloween, mais pas seulement du coup, c'est aussi notre façon de célébrer cette période en automne où les nuits sont si longues et où les jours sont si courts. C'est une tradition d'Halloween qui est plutôt différente de celle des États-Unis où les enfants se déguisent en sorcières et vont réclamer des bonbons. De plus en plus, on a également ici aussi l'influence des États-Unis. Mais je sais que c'est important pour les parents d'essayer de préserver cette tradition qui n'est pas seulement une tradition d'Halloween, mais aussi une tradition pour fêter le retour des nuits noires.